Messieurs les représentants, n'est-ce pas, du ministre de la Forêt et de la Faune de la République du Cameroun, distingué professeur Isa Koné, cher primatologiste, professionnel de la conservation, leader communautaire, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui à Yaoundé, autour du bassin ou à l'intérieur du bassin du Congo, pour présenter ou parler sur les questions d'éthique de la conservation de la faune sauvage au Cameroun. Mais j'aimerais commencer par une question, n'est-ce pas, à l'ensemble. Pourrons-nous réellement conserver la faune sauvage en excluant les personnes qui vivent avec cette faune et ces forêts depuis des générations? Est-ce qu'on peut vraiment parler de la conservation de la faune sauvage en excluant les personnes qui vivent dans ces forêts avec ces animaux depuis des générations? Je voudrais continuer par dire non, comme le ministre en charge des forêts et de la faune du Cameroun a dit ce matin, et je voudrais aussi, n'est-ce pas, reconnaître les nouvelles orientations qui ont été prises en compte dans la nouvelle loi forestière du Cameroun, comme le ministre l'a indiqué ce matin, en faveur d'une plus grande part aux communautés. Pendant que je marchais dans les forêts où j'ai passé beaucoup d'années, et il y a un membre de la communauté qui m'a demandé, il m'a dit, mais vous parlez beaucoup de conservation, de ceci, mais vous ne cherchez jamais à savoir ce qui s'est passé. Parce que selon nous, les communautés, on vous regarde faire. Et depuis beaucoup d'années, vous faites beaucoup d'efforts, puisqu'on vous voit venir ici, avec vos voitures, avec beaucoup d'argent, et ainsi de suite. Mais nous, on constate que c'est comme si la faune sauvage ne fait que diminuer. Et je lui ai dit, ok, dis-moi donc, qu'est-ce que s'est passé dans l'histoire? Et il m'a dit, un jour, il y a des gens qui sont arrivés dans leur village, dans la forêt, là où ils vivaient, au fin fond. Et ils leur ont dit, ok, à partir d'aujourd'hui, ça, ce n'est plus pour vous. C'est pour la conservation. Et vous n'avez plus, n'est-ce pas, le droit d'entrer n'importe comment. Et il y a eu beaucoup de restrictions. Et ces gens, il y en avait qui étaient armés, ils avaient des armes, ils avaient des tenues et beaucoup de galons. Et à cause de ça, ils n'ont pas répondu. Ils se sont juste tournés et ils sont partis. Et il m'a dit que c'est depuis ce jour-là qu'il y a un gap, un fossé entre vous et nous. Nous vous regardons, vous avez nous dit que vous êtes les conservationnistes. Alors, bien entendu, ça veut dire que nous sommes les braconniers. Et voilà comment est-ce que le fossé a été matérialisé entre les communautés locales et les conservationnistes, les chercheurs et tous ceux qui sont intéressés à protéger, n'est-ce pas, les forêts et la faune sauvage. Donc, comme le ministre disait ce matin, non, on ne peut pas faire la conservation des animaux, de la faune sauvage en général, et des primates, et des forêts, sans considérer, n'est-ce pas, l'homme, les communautés qui sont là. Et je voudrais vous dire que c'est à partir de ce moment-là que l'éthique commence. L'éthique commence à partir du moment où on commence à considérer que les hommes, les communautés locales que nous avons trouvées et qui ont fait plusieurs siècles à gérer ces espaces de forêt, à gérer, n'est-ce pas, la faune sauvage, si on considère qu'ils font partie. J'ai encore apprécié ce matin un mot du ministre où il disait que c'est un partenariat. Ils ne sont pas les bénéficiaires dans nos langages que nous avons l'habitude d'utiliser. C'est des personnes qui sont importantes, c'est des partenaires pour la conservation. La conservation ne concerne pas uniquement la faune sauvage. C'est quelque chose que nous devons bien garder et bien comprendre. Nous en parlons. Mais est-ce que nous essayons de nous donner une idée réelle de ce que cela signifie? Que la conservation ne conserve pas uniquement la faune sauvage. Ça ne concerne pas uniquement la faune sauvage. Le Cameroun est l'un des pays avec une riche, n'est-ce pas, diversité biologique en Afrique. Et nos forêts, n'est-ce pas, abritent des espèces extraordinaires, notamment, n'est-ce pas, certains primates qui sont les plus menacés en Afrique. Je vais encore me rappeler de ce que le ministre a dit ce matin. Le Cameroun était un grand pays de biodiversité. Le bassin du Congo en est encore plus. Donc, nos forêts abritent des espèces extraordinaires, notamment certains des primates les plus menacés en Afrique, comme je suis en train de le dire, mais nos forêts ne sont pas des espaces vides. Ce sont aussi des lieux de vie. C'est des lieux de vie. Elles constituent des sources nourricières et des moyens de subsistance. Ce sont des espaces culturels, ce sont des espaces de spiritualité et d'identité. Ce sont des paysages ancestraux. Aussi, lorsque nous créons des aires protégées de conservation, un programme de conservation de la faune, nous intervenons pas uniquement, n'est-ce pas, dans un écosystème. Parce que à l'intérieur de ces espaces, il y a les hommes, il y a les communautés. Nous intervenons, n'est-ce pas, dans un milieu de vie où il y a des populations. Et c'est pourquoi la conservation doit être éthique. À partir du moment où il y a l'homme, il faut tenir compte de l'éthique. Et nous sommes très contents parce que ce quatrième congrès met l'emphase sur les questions éthiques et sur les questions de conservation dirigées par les communautés. Je pense que nous sommes en train de retomber sur nos pieds, n'est-ce pas, pour pouvoir avancer avec le gap qu'on avait déjà créé avec nos communautés et qui, n'est-ce pas, a eu toutes les conséquences que nous pouvons mesurer aujourd'hui avec la baisse, n'est-ce pas, de la faune sauvage. L'héritage colonial de la conservation est à prendre en compte. Et c'est important. Nous devons également avoir le courage de parler, n'est-ce pas, de cela. Il y a un héritage colonial qui a un effet, n'est-ce pas, sur la façon dont nous concevons la conservation, de la façon dont nous voyons la conservation. Et il est important, n'est-ce pas, qu'on puisse regarder ainsi. Mais en Afrique, la conservation a également hérité de certaines pratiques issues de la colonisation. Il y a des pratiques que nous avons héritées et qui sont des problèmes également pour nous. Les aires protégées, n'est-ce pas, ont parfois été créées dans une véritable, avec des conditions très partiales où les populations vivent et qui ne sont pas prises en compte. Les institutions traditionnelles et les savoirs locaux ont souvent été marginalisés. Et il est important qu'on regarde tous ces aspects qui semblent très comme marginaux, mais qui sont essentiels. Parce qu'aujourd'hui, quand on essaye de regarder les manquements que nous avons eus pendant que nous étions en train de pratiquer la conservation, nous nous rendons compte qu'il y a certaines connaissances locales, certaines connaissances traditionnelles que nous n'avons pas encore intégrées. Très souvent, nous en parlons, mais passer à l'acte pour rendre les choses effectives est encore à faire. Et les communautés qui étaient parfois considérées comme des problèmes à gérer, plutôt que comme des partenaires de la conservation. Le ministre disait ce matin, ce sont des partenaires, ce ne sont pas des bénéficiaires. Vous savez que nous avons toujours dit que, mais la question des communautés, c'était un problème à gérer. On ne les considérait pas. On ne leur donnait pas la place qui leur revient dans le travail de la conservation. Nous avons travaillé avec certaines communautés et ils m'ont demandé, mais vous venez chaque fois nous voir pour nous parler, vous dites que vous nous sensibilisez. Dites-nous, quel est le rôle que vous nous avez assigné? Vous nous avez donné quel rôle? Et j'étais vraiment épouvanté quand j'ai écouté dans tout le business de la conservation. Quel est le rôle que nous avons donné aux communautés et qui est reconnu que voici le rôle des communautés dans la conservation. Nous n'avons pas fait ça. Les chercheurs savent très bien ce qu'ils doivent faire. Les conservationnistes savent très bien ce qu'ils doivent faire. Les gestionnaires des aires protégées savent très bien ce qu'ils doivent faire. Et les communautés, alors, quel est le rôle que nous les avons donné? Ou bien, nous pensons seulement à un rôle, parce que si vous donnez un rôle, vous en définissez un rôle, il y a ce qui va avec chacun. Comme on regarde, les chercheurs ont, n'est-ce pas, ce qu'il faut pour faire la recherche. Les gestionnaires des aires protégées ont ce qu'il faut pour faire la gestion de l'air protégé. Les conservationnistes, de même. Mais les communautés, quel est le rôle que nous les avons donné dans la conservation? Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Quel est l'accompagnement qui va avec pour les aider à bien exécuter leur rôle, ce qui leur revient à faire dans la conservation? Ça, c'est des choses que nous devons garder en esprit, qui semblent très légères, mais qui sont les éléments que nous avons manqué au moment où nous étions en train d'entreprendre, n'est-ce pas, la conservation. Et ça, c'est des éléments qui sont liés à une approche, n'est-ce pas, qui est très proche, n'est-ce pas, de la colonisation, des approches coloniales. Et c'est important que nous puissions travailler dessus. Parce que cela a affecté la confiance. Là où tu travailles, en dehors de ce qui tourne autour de toi, est-ce que la communauté, tu as ce ressentiment que les communautés ont encore confiance? Est-ce qu'elles ont encore confiance en toi? Est-ce qu'elles croient au travail que tu es en train de faire? Sinon, pourquoi est-ce qu'il y a tant de braconnage? Il y a encore le braconnage. Et c'est cette façon de les considérer qui a rompu la confiance, ou bien qui a érodé la confiance. Et nous investissons beaucoup, à certains endroits, beaucoup d'efforts pour restaurer la conservation. Et je voudrais parier même que là où nous disons que la conservation a réussi, je pense que la confiance entre les conservationnistes et les communautés a joué un rôle particulier. La confiance. La confiance. La confiance. Quand entre les partenaires, si nous considérons que nous sommes partenaires avec les communautés et qu'il n'y a pas de confiance, je pense qu'on ne peut pas avoir beaucoup de bénéfices. Et cela, c'est ça. Vous allez me dire, mais la confiance, c'est quoi? Mais qui décide? dans notre relation avec les communautés, qui décide? Quels sont les savoirs qui sont reconnus? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Qui décide? Quels sont les savoirs locaux qui sont reconnus? Parce que si on reconnaît, ils se sentent partie prenante. Du coup, parce qu'ils comprennent qu'ils ont aussi quelque chose d'important à apporter. Mais il y en a qui disent souvent aux pygmées qu'ils vont les former comment gérer la forêt. Aux pygmées. Je dis non, on va vous montrer comment gérer la forêt. Vous allez montrer aux pygmées comment gérer la forêt. Et ils ont géré la forêt depuis des millénaires. Et maintenant, vous voulez les montrer, vous voulez les former. Vous voyez que nous, notre attitude, notre façon de voir, notre façon de comprendre, de concevoir les choses, nous amène souvent à dire des choses qui ne sont pas bien placées. Que nous voulons montrer aux communautés comment est-ce qu'ils vont gérer les forêts. On aurait plutôt demandé comment est-ce que vous pensez que ça doit être géré. Une autre question, qui supporte les coûts de la conservation? C'est important. Qui en est bénéficiaire et surtout qui dirige? Et ça, c'est important. Nous devons bien voir ça. Est-ce que vous savez que les communautés pensent que c'est eux qui supportent tout le coût de la conservation? On les appelle les braconniers. Donc, c'est eux qui sont le problème. Les communautés pensent comme ça. Elles sont le problème. Donc, c'est eux qui sont en train de détruire la forêt. C'est eux qui sont en train de tuer les grands singes. C'est eux qui sont en train de tuer les autres animaux. C'est eux, n'est-ce pas, qui font les feux de brousse. C'est eux qui sont en train de cultiver, n'est-ce pas? Et tout ça, ça détruit, ça contribue, n'est-ce pas, à détruire la forêt. Et ils portent un lourd fardeau qu'on a déposé sur les têtes, sans qu'il n'ait à s'expliquer sur quoi que ce soit. Je pense que nous devons donner la voix aux communautés pour qu'ils nous disent un peu comment est-ce qu'ils voient la forêt et comment est-ce qu'ils pensent que cette forêt serait gérée et comment est-ce qu'ils peuvent être des parties prenantes, réelles, effectives, n'est-ce pas, pour la gestion des espaces de forêt que nous avons où résident nos grands singes. C'est important. Et comment pouvons-nous travailler ensemble pour protéger à la fois la faune sauvage et la forêt? Et c'est là que commence la conservation éthique. Tant qu'on ne peut pas revenir à ce niveau, on ne peut pas parler de l'éthique dans la conservation. Et il y a beaucoup qui ne peuvent pas rentrer. Hein? Il y en a qui pensent qu'ils sont tellement justes. Ils ont tellement raisonné sur ce qu'il faut faire qu'il est pour eux impossible de pouvoir revenir écouter les communautés. Parce que c'est ça qui est un des plus grands défis. Est-ce que nous sommes capables, nous en tant que scientifiques, nous avons la science, nous avons la méthode, est-ce que nous sommes capables de se retourner et aller s'asseoir avec les communautés pour leur dire, comme on dit au Cameroun, on fait comment? Comment est-ce qu'on avance? Comment est-ce qu'on avance? Parce que, peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais ils trouvent que nous sommes en difficulté. Parce que malgré nos méthodes, malgré tout ce que nous faisons, il y a toujours la faune qui est en train de diminuer. Ils savent que nous sommes en difficulté. Et ils nous regardent. Mais est-ce que nous avons donc le courage, n'est-ce pas, de retourner vers eux? Et pour nous les primatologues, qu'est-ce que cela signifie pour la primatologie? En tant que primatologue, nous avons l'habitude de mesurer les populations, les pertes d'habitat, les pressions de la chasse et les changements écologiques. Mais nous devions peut-être également mesurer autre chose. La confiance. C'est important que tu mesures la confiance. Que les communautés qui travaillent avec toi, ils ont de cet objectif ou cette vision que nous avons de protéger les grands singes, de protéger les autres, la faune sauvage et de protéger les forêts. Il faudra qu'on mesure un peu la confiance. Que tu mesures la confiance des communautés que tu accompagnes vis-à-vis du travail que tu es en train de faire. Et voir. Tu peux avoir quelques guides qui t'aiment parce que tu leur donnes un peu de travail, un peu de sous, mais il faut voir, n'est-ce pas, dans l'ensemble, comment, quel est le degré de confiance. Ça va déterminer un peu le niveau de protection que nous pouvons donner et bien partager. J'ai l'habitude de dire que si on avait commencé la conservation par le développement, je pense qu'on ne serait pas au niveau où nous sommes. Mais nous avons commencé la conservation par la conservation. Et là, on est là où on est aujourd'hui. Mais si on avait commencé par le développement, les communautés devaient faire la conservation. Ça ne devait même pas nous revenir comme tâche. Puisque en ce développement, ils devaient dire, ah, nous, on est obligés. Hein. Il faut qu'on gagne en conservant quand on est épuisant. On a commencé la conservation par la conservation. Donc c'est important, c'est bien de mesurer ça avec les communautés qui nous accompagnent, ou bien que nous accompagnons, avec qui nous travaillons. Et puis toute cette biodiversité, n'est-ce pas, qui est dans les forêts et que nous voulons conserver. Lorsque les communautés sont représentées, responsabilisées, impliquées, la conservation repose sur des bases plus solides. Quand elles sont représentées, impliquées, responsabilisées, la conservation repose sur des bases solides. Nous devons leur donner un rôle connu, accompagné, n'est-ce pas, de tout ce que cela implique. Comme nous aussi on reçoit. Parce que si vous allez leur dire facilement, nous pensons, par exemple, que non, les communautés sont les gardiens de la forêt. Dans notre pensée juste, et normal, on dit, ah, mais c'est les gardiens de la forêt. Mais les gardiens sont aussi payés. On les paye combien? Et c'est important que nous y pensons aussi. Et si on regarde comme ça, nous allons voir qu'il existe, n'est-ce pas, des nouveaux modèles africains de conservation. Parce que nous continuons toujours à réfléchir. Il y en a parmi vous qui font des travaux très intéressants pour voir comment est-ce qu'on peut continuer à adresser cette question. Parce que là où nous y sommes rendus jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas très réduisant. Il y a des menaces, il y a des espèces qui sont menaces critiques. Et c'est important qu'on continue à voir comment est-ce qu'on peut apporter des solutions. Et je pense que l'Afrique a l'opportunité de redéfinir la conservation. Nous avons l'opportunité de redéfinir la conservation. C'est important. C'est ici que les animaux sont. L'Afrique ne devrait pas seulement être le lieu où sont mis en œuvre les programmes internationaux de conservation. L'Afrique doit de plus en plus être le lieu où la conservation est définie, gouvernée et diriger. On doit définir les programmes de conservation avec les Africains, avec les communautés. Comme ça, il y a la possibilité d'élever des équivoques à certains endroits qui vont permettre une conservation plus facile. Plus facile. Et ça, c'est important. Et cela signifie amender davantage, de donner davantage de place, n'est-ce pas, aux scientifiques africains, et nous sommes contents de constater, pour moi par exemple, qui suis APS depuis quelques bonnes années, hein, qu'il y a davantage, n'est-ce pas, d'étudiants, ceux qui étaient étudiants il y a quelques années, maintenant sont des docteurs, n'est-ce pas, affirmés, et ça c'est important. Et j'ai écouté dans tous les abstracts qui ont été retenus, et ainsi de suite, il y a une bonne palette, n'est-ce pas, qui a été accordée aux étudiants. Et ça, c'est important, n'est-ce pas, pour préparer l'avenir. Et comme notre sœur est en train de dire tout à l'heure, il faut s'aimer, n'est-ce pas, pour la génération qui suit. Aux traditionnels, aux autorités traditionnelles, il ne faut pas les oublier. Hein. Parmi nos pinacles, dans certains endroits, il y en a qui sont des génies. Hein. Parmi nos primates que nous comptabilisons dans la forêt, il y en a qui sont les génies de ces gens-là, de ces autorités traditionnelles. On ne peut pas juste dire qu'on va gérer les génies des gens, n'est-ce pas, sans qu'ils soient impliqués. ne dis pas que tous les primates sont des génies, mais je suis en train de dire, ça c'est des réalités que nous avons, nous rencontrons dans les villages, ceux qui vont, ils savent que bon, il y a aussi une partie des gens qui sont incarnés dans les animaux. Les peuples autochtones et les communautés locales, nous devons prendre en compte ces gens, les jeunes acteurs africains de la conservation, n'est-ce pas, et au système de communautaire qui sont en train de se développer au sein, n'est-ce pas, des groupes et qui permettent de pouvoir faire passer d'une génération à une autre. Je pense que le président Ilza est en train de dire qu'on ne va pas oublier, il faut déjà passer la main pour permettre que les plus jeunes, n'est-ce pas, trouvent, pas qu'ils trouvent leur place, et qu'ils aient des places nouvelles, vides, n'est-ce pas, pour occuper, afin que les choses puissent avancer. Ça, c'est important, n'est-ce pas, si nous voulons développer un nouveau modèle, n'est-ce pas, de conservation, pour éviter ce que nous avons eu. L'avenir, n'est-ce pas, ne devrait pas être la conservation. Pour la conservation, elle devait être la conservation avec les communautés et finalement, la conservation dirigée par les communautés. Essayons ça. Je pense qu'on n'a pas fait jusqu'ici comme on devait le faire. Beaucoup ont la preuve que ça peut marcher, que ça marche. Alors, convergeons dans ce sens. Et je pense que cette année, avec le 4e congrès, l'éthique et tout ce qu'il y a comme pour les communautés, je pense que cette direction, n'est-ce pas, me semble une des directions importantes que nous devons, surtout qu'on n'a jamais, on n'a pas fait comme il fallait le faire dans le passé. Et nous avons la preuve de beaucoup de conséquences. Mon défi pour cette conférence, je voudrais donc laisser cette communauté de primatologistes africains avec des défis. Premier défi, conservons les espèces sans oublier les populations. Je pense que c'est la thématique, c'est le thème, n'est-ce pas, de notre conférence. Le deuxième défi, c'est associons les communautés scientifiques au savoir local. Il y a beaucoup de connaissances. Il y a beaucoup de connaissances que nous n'avons pas, nous avons juste mis de côté. Nous avons essayé d'appliquer ce que nous avons pensé être bien jusqu'ici, mais on se rend compte que nous avons encore un pied qui boite et il faudra qu'on aille chercher ces connaissances-là qui seront utiles, pas seulement pour protéger, n'est-ce pas, les grands singes, les primates, mais même pour la médecine et beaucoup d'autres choses, et même la biodiversité, la gestion des écosystèmes tout entier. Retournons, n'est-ce pas, il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de savoirs locaux qui sont importants. Le troisième défi, c'est la transformation, n'est-ce pas, transformer la participation en leadership. Parce qu'une fois qu'on aurait fait des communautés, des partenaires, et qu'on les transforme finalement en leaders, on va gagner. La faune africaine va gagner s'ils deviennent finalement des leaders. À partir de ce moment-là, ils prendront donc, n'est-ce pas, la direction de la conservation comme étant une partie de leur existence. Et ils ne pourront pas la détruire parce qu'en détruisant, eux-mêmes vont disparaître. Parce que les communautés, n'est-ce pas, ne devraient pas rester éternellement de simples bénéficiaires de projets de conservation, ou comme ailleurs, elles devraient, n'est-ce pas, devraient être des décideurs, des partenaires de recherche, des leaders de la conservation et les auteurs et les acteurs qui façonnent l'avenir de la conservation et des territoires. Ça, c'est des choses vers lesquelles je pense que cette conférence, ce 4e congrès nous conduit, n'est-ce pas, nous invite à aller dans cette direction. Je ne voudrais pas être trop long, je vais conclure, n'est-ce pas, en disant que la crise des primates est réelle. Hein, nous tous, nous le savons, la crise des primates est réelle, la crise de la biodiversité est réelle, La pression exercée, n'est-ce pas, sur les terres sont réelles et c'est urgent d'agir. Mais l'urgence ne doit jamais devenir une excuse pour l'injustice. Nous devons rester dans l'éthique du travail que nous sommes en train de faire ou bien que nous avons commencé à faire. La question n'est pas de savoir si nous devons choisir entre les populations et la faune sauvage. Ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas savoir si nous devons choisir entre les communautés locales et, n'est-ce pas, la faune sauvage. C'est un faux choix. La véritable question est comment construire un système de conservation dans lequel les populations et la faune sauvage peuvent toutes deux prospérer. C'est ça qui est ce que nous devons rechercher. Ce n'est pas une question de choix. On faisait mal comme ça maintenant. Nous sommes tous sensibilisés sur le fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Maintenant, comment faire pour que la faune sauvage, comme les communautés, prospère ensemble? C'est un... Décoloniser la conservation signifie passer par de l'exclusion à l'inclusion, de la consultation à la co-conception, d'un pouvoir hérité à un pouvoir partagé. Il faut qu'on essaie un peu de décélérer ce que nous sommes en train de faire. Finalement, de la protection au partenariat. Les principes partner. Partner, c'est une approche, n'est-ce pas, qui est en train de se développer dans le Global South de formation pour permettre que les communautés dirigent la conservation. Parce que je pense que c'est en français que c'est bien dit. Hein. Community-led conservation. Pour nous autres, ils ne sont pas très anglophones, mais c'est un peu... Mais en français, la conservation dirigée par les communautés. Parce que là, je sais que ça peut susciter, mais comment est-ce qu'on peut laisser quelque chose de si important aux communautés, n'est-ce pas, à diriger? Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous devons commencer à bien réfléchir. Et avec le snow leopard, n'est-ce pas, au niveau de l'Inde et beaucoup d'autres organisations en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, il y a déjà des formations qui sont en train de se faire pour aider, n'est-ce pas, les communautés à se remettre au centre de la conservation et que les choses changent et que la faune puisse prospérer davantage. Les principes partenaires nous rappellent que la conservation éthique commence par la présence. Partenaire paye ses présences. Très souvent, nous faisons la conservation à partir de nos villes. Nous ne sommes pas au village. Beaucoup de conservationnistes ne dorment même pas au village. Pour ceux qui font de la recherche, ils partent dormir en forêt. Ils ne dorment pas au village avec les communautés. La présence est essentielle. La présence. Ils ne dorment pas. Ils s'en vont dormir dans leur camp. Et c'est là-bas qu'ils font la recherche. Et les communautés s'interrogent, mais qu'est-ce qu'ils font? Même s'il y a des guides, eux-mêmes ne peuvent pas dire exactement. Il y a le respect qui est un élément de partenaire, l'approche partenaire. Très souvent, nous ne respectons pas les autres. Notre attitude de condescendance, de connaissance, nous avons beaucoup de connaissances, il nous est difficile de pouvoir écouter les autres. On n'a pas de respect, ils ne comptent pas. Ce qui est important, allez, viens me montrer les traces, les gorilles, les nids, et puis voilà, je vais faire mon travail et je vais aller analyser avec des méthodes nouvelles et autres. Et nous avons des questions de transparence. On n'explique pas bien ce qu'on fait. Parce qu'en expliquant, ils peuvent apporter une contribution. Mais on n'a pas le temps pour ça. Ils ne connaissent rien. La négociation. Il faut négocier avec eux sur beaucoup de points. Pas sur les grands principes ou quoi que ce soit, mais même pour travailler, pour qu'ils puissent couler vers vous, l'un vers l'autre, ainsi de suite. C'est une question de savoir. C'est une question de connaissance. Si je suis libre dans mon cœur, j'ai la confiance et autres, je peux couler pour permettre de faire avancer la science. Nous avons toujours dans ce principe-là l'empathie. Nous avons fait la conservation des gens qui connaissent et qui viennent, ils ont beaucoup d'argent, etc. Ils vont faire la conservation. On ne sait jamais, l'empathie, ça veut dire, on ne sait jamais placer à la place des communautés. Si nous nous plaçons à la place des communautés, on va refaire notre... On va encore faire, comme on dit, rewind, n'est-ce pas, notre montre pour la mettre après eux. Mais le fait qu'on ne se met pas à leur place, nous sommes des conservateurs, des chercheurs d'autres, on n'a pas le temps. C'est important. Regarde tes communautés, essaie de te mettre à leur position et tu verras que tu auras la vraie solution, n'est-ce pas, pour eux et pour les grands singes, n'est-ce pas, que nous voulons protéger. Donc il y a tous ces principes. Nous demandons, n'est-ce pas, pas nous demandons pas seulement qu'avons-nous fait pour les primates. Ce n'est pas la question qu'on se pose le plus, mais nous demandons également qu'est-ce que nous avons fait avec les communautés qui partagent, n'est-ce pas, la forêt. C'est ça qui sont les questions auxquelles nous devons nous poser maintenant. Et l'avenir des primates en Afrique, n'est-ce pas, dépendra non seulement de la capacité à protéger leurs habitats, c'est pas seulement ça, mais aussi comment est-ce que nous tenons compte, n'est-ce pas, des communautés. Donc voilà un peu résumé ce qui, nous aurons le temps certainement dans les formations pour revenir sur l'approche FATMA que nous avons trouvé comme étant une approche qui permet, n'est-ce pas, de donner la parole aux communautés, mais aussi et surtout, n'est-ce pas, de permettre à ces communautés de sentir que c'est eux qui dirigent. C'est aussi important qu'on leur permette, n'est-ce pas, cela. Et je pense que cette approche éthique, n'est-ce pas, peut aider à protéger, n'est-ce pas, à garder nos grands singes et à nous permettre aussi d'avoir de la joie à communiquer avec ces communautés pour protéger. Parce que nous n'avons pas encore expérimenté, n'est-ce pas, cette relation que nous devons avoir avec les communautés pour protéger les grands singes que nous aimons tant. Et il faudra qu'on revienne à ça et qu'on retrouve cela. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Manfred. Je me donne l'occasion de parler un peu en français. On n'aura pas beaucoup de temps pour les questions. Donc les questions, nous aurons l'occasion de les poser pendant la pause déjeuner ou à d'autres occasions. Je me propose donc de faire un rapide résumé de ce que je retiens de cette présentation de Manfred. Donc Manfred nous enseigne que dès qu'on travaille avec les communautés, les questions d'éthique se posent. Les communautés ne doivent pas être considérées comme juste des bénéficiaires, mais des partenaires de la conservation. La question centrale, c'est quel rôle reconnaît-on aux communautés dans la conservation. Il s'agit donc d'établir une relation de confiance, une relation de respect mutuel, une relation d'apprentissage mutuel. Nous avons à apprendre des communautés autant qu'elles ont à apprendre de nous. Nous n'avons pas à les stigmatiser comme étant les responsables des problèmes de conservation. Au contraire, nous devons associer les communautés à la co-construction des solutions et à la mise en place participative de ces solutions co-construites. Nous devons apprendre non seulement à mesurer l'impact écologique de nos actions, mais aussi et surtout, quand on parle d'éthique de la conservation, nous devons apprendre à mesurer le degré de confiance établi entre nous et la communauté. Il faut qu'elle soit représentée, il faut qu'elle soit impliquée et surtout, il faut qu'elle soit responsabilité. C'est là les bases solides de la conservation. Manfred souligne que ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Il y a en Afrique de nombreux modèles réussis de conservation éthique, de responsabilisation des communautés dans la conservation. L'Afrique doit apprendre à se positionner, à redéfinir la conservation, à définir son propre agenda de conservation et à contribuer ainsi à l'agenda mondial. Les défis, il les a mentionnés, mais si nous faisons notre le mot partenaire, qui va être le cœur, on va dire, de la formation sur le type de la conservation, je crois que c'est samedi, ben, nous devrons pouvoir inverser la tendance actuelle la crise de la biodiversité, de la perte de nombreuses espèces de primates sur le continent africain. Je vous remercie. So, I hope the Anglophones got it.
Okay.
We have, unfortunately, no time for questions or comments, but yes, let's take advantage of the coffee breaks, money breaks, and so on, to talk to Manfred. He will be available, and those will be here on Saturday. We'll take part to a training on reconstruction. So he already started by defining the acronym partner, B for presence, and so on. So he otherwise on Saturday.
Yeah.
Merci beaucoup, Prof. Inza. Thank you very much, and thank you, Dr. Manfred, for the very inspiring speech. So, just some quick announcement before we go for our lunch break. So, after we come back, we will have parallel sessions. So, we have, as you can see in the program, we have four rooms. This plenary hall is room one. We have room two and three, just as you exit to your right. You have room two and room three there. I've written something to indicate. And then we have room four, which is a bit far away the other side, but I've also made sure you can find your way. So as you go down the stairs to the registration desk, you will take the corridor to your right as well, and you will see it is written there, like room four. So we'll have those four parallel sessions. So room one will have people talking about ecology, and that will be moderated by Dr. Denis Ndelo. Room two will be about community-based conservation, moderated by Dr. Kamga Sej. Room three, conservation and education, moderated by Dr. Stanislas Kivai. And then room four, we'll have the symposium on creative conservation, science, strategy, and collaboration, co-moderated by Dr. Tenessa and Dr. Jackie on the land corps. So after that, we will come back. The rest of it is here. So after we come back from the group sessions, we'll have a very short tea or coffee break.